d'adaptation au changement climatique, de dérèglement climatique, et puis comment les villes, comment la ville s'adapte, comment la ville se rafraîchit. Donc on va retrouver dans quelques instants un paysagiste, c'est un concepteur passionné. Très tôt, il a été conscient de la force de la nature, de son intelligence et surtout du fait qu'elle ne joue pas le rôle qui doit être le sien dans la fabrication de la ville. On retrouve Jean-Marc Bouillon. Bonjour Jean-Marc Bouillon.
Bonjour Olivier, bonjour.
Alors vous êtes le créateur d'une méthode innovante pour rafraîchir nos villes face au dérèglement climatique. Vous allez nous en parler dans quelques instants. J'ai oublié de dire aussi que vous êtes président honoraire de la Fédération française du paysage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce portrait, Jean-Marc Bouillon?
Sûrement. Oui, un petit truc. Je suis également administrateur de Valor, qui est une interprofession qui réunit tout le monde du végétal en France. Et je le dis pas tellement pour l'honneur, mais je le dis surtout pour l'efficacité, parce que c'est une interprofession qui réunit 10 familles professionnelles et qui permet d'avoir un regard très transversal sur le rôle du végétal en ville. Ça nous permet d'organiser notamment une fois par an à Paris des journées sur la palette végétale de demain. Comment on réfléchit ensemble à faire émerger, parce qu'il y a urgence, les solutions ou les dispositifs végétaux les plus appropriés.
Alors vous êtes à l'initiative avec d'autres, hein, avec tout un collectif, de Qui veut rafraîchir sa ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est que Qui veut rafraîchir sa ville? Vous êtes le président, c'est une start-up, c'est ça?
Oui, c'est une start-up qu'on a créée, une start-up qui est une société à mission, une SAS à mission, qui a pour but d'accélérer l'adaptabilité des villes au réchauffement climatique par des solutions végétales régénératives. Alors, c'est pas la définition qu'on utilise tout le temps parce qu'elle est un peu techno, mais le mot important, c'est adaptabilité plutôt qu'adaptation et solutions végétales régénératives. Adaptabilité, pourquoi? Parce que le climat évolue à toute vitesse. Il va évoluer de façon tendancielle, mais aussi par à-coup. Et donc, ce qui est important pour arriver à faire que nos villes restent des lieux désirables, agréables, même supportables, eh ben il faut plutôt enclencher des processus d'adaptabilité qui permettent, donc quels que soient les... Alors, en gros, quand il y a trop d'eau, ben comment ça se passe? Quand il fait trop chaud, comment ça se passe? Et les réponses sont pas toujours les mêmes, etc. etc.
J'ai oublié de dire, Jean-Marc Boum, que vous étiez à Lyon. Et donc, Lyon, déjà, première question, comment vous avez vécu cette canicule, cette deuxième canicule?
Malheureusement, sans surprise, hein, parce que nous, on connaît bien ces phénomènes-là, et on constate, on le voit dans toutes les études, que l'arc rhônadien va être particulièrement concerné par ces histoires de canicule, et principalement les trois grandes villes de cet arc rhônadien, Lyon, Annecy et Grenoble, ont fait partie des villes les plus exposées en France. Et donc nous, on a dépassé les 40 degrés, c'est juste des conditions qui deviennent extrêmement pénibles, voire presque un peu dangereuses, quoi.
Ouais. C'est surtout, enfin, moi pour l'avoir vécu sur Paris, le problème c'est la nuit. C'est surtout la nuit. Ouais. Quand on n'arrive pas à dormir, qu'il fait 30 la nuit, même 27, 28, voilà, entre 28 et 30, ouais. Là c'est pénible. Parce qu'à 2h, 3h du matin, on ne sait pas quoi faire.
Ouais, et on dit que l'inconfort nocturne arrive à partir de 26 degrés. Et nous, on attaque nos nuits à 30, 32 degrés, quoi.
Ouais. Alors, on revient sur Qui veut rafraîchir sa ville. Rien que de prononcer Qui veut rafraîchir sa ville, on baisse en température déjà.
Oui, ça fait du bien. Oui, quand on s'est posé la question de savoir comment on allait appeler notre boîte, on s'est dit que... Après le moment où on donnait des acronymes, après le moment où on donnait des noms latins, est arrivé le moment où on annonce la promesse. Nous, notre promesse, elle est de rafraîchir les villes. Comme ça, on le dit dans le nom, comme ça on sait ce qu'on fait. Et en fait, c'est même pas si vrai que ça, parce qu'on ne fait pas que rafraîchir sa ville. On lutte contre la ville qui déborde et on lutte contre la ville qui surchauffe. Alors, et ça tombe bien parce que les deux trouvent réponse dans la même solution.
Alors, comment on peut lutter et mettre en place une adaptabilité par des solutions végétales pour rafraîchir sa ville?
Alors, d'abord, y a un principe de base, c'est que la nature, les arbres, les arbustes, les plantes de couverture, ensemble, forment des dispositifs végétaux qui sont particulièrement efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que la nature, pour être nature, pour pouvoir faire sa photosynthèse, va avoir besoin de réguler sa température, donc d'évapotranspirer, d'accord, de transpirer exactement de la même façon que nous on transpire. Il y a la température des feuilles doit être à 32 degrés, et donc en évaporant cette eau, plus qu'un parasol, ça crame des calories en créant des frigories. Donc nos dispositifs végétaux non seulement font de l'ombre, mais rafraîchissent. Et ce sont des climatiseurs qui sont assez extraordinaires. Pourquoi ? Parce que chaque année, quand elles sont dans de bonnes conditions, nos arbres poussent et deviennent des climatiseurs de plus en plus puissants. Ils sont très économes en énergie parce qu'il n'y a pas besoin de courant pour le faire et ils font pas de bruit. Donc c'est quand même une bonne solution. Mais il y a un problème.
Ils souffrent pas trop de la chaleur ?
Pardon ?
Est-ce que les arbres souffrent aussi de la chaleur ?
Ah ben ils vont souffrir de la chaleur, surtout s'ils n'ont pas d'eau. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que ça permet de répondre à la question de cette ville qui déborde et de cette ville qui surchauffe, parce que pas d'eau, pas de végétaux. Donc si on a envie de bâtir des stratégies d'adaptabilité de nos villes par des solutions végétales, il faut d'abord régler la question de l'eau. Et ça c'est hyper important, parce que à Lyon, par exemple, qui était en France, on disait que c'était la capitale de l'arbre en ville, hein. C'était les premiers à faire la charte de l'arbre, comment le mélange terre-pierre, comment la fosse de plantation idéale. Nous, jeunes paysagistes, on venait de France entière pour voir comment on plantait un arbre à Lyon, et ils avaient remarqué en 1996 que 50% des arbres qui remplaçaient chaque année avaient moins de 30 ans, alors qu'il faisait beaucoup moins chaud qu'on avait le droit d'arroser. Donc on se rend bien compte qu'il va y avoir une question pas d'eau, pas de végétaux, et donc il faut d'abord régler la question de l'eau. Alors c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est la question qu'il faut se poser, c'est n'existerait-il pas sur chaque parcelle cadastrale, sur chaque coin de la ville, un petit espace vert qui est déjà là ou qui est facile à créer, qu'on pourrait mettre en creux et vers lequel, par gravité, de façon la plus naturelle possible, on conduit l'eau collectée par une surface imperméable qui existe. Eh ben, on la conduit vers cet espace vert en creux pour lui donner le temps de s'infiltrer, de se stocker, pardon, ce qui lui donnera le temps de s'infiltrer et de recharger les nappes, mais ce qui donnera aussi le temps de s'évaporer et de rafraîchir l'atmosphère, et tout ça au profit des végétaux, qui vont du coup, avoir des conditions pérennes de croissance, etc. Parce que la nature étant bien faite, les arbres, quand ils sont en situation de stress hydrique, c'est-à-dire quand il n'y a plus assez d'eau dans le sol, qu'est-ce qu'ils font? Par mesure de survie pour eux, leurs feuilles se fanent, les stomates se ferment et ils arrêtent d'évapotranspirer, donc ils coupent la clim.
Est-ce que les racines vont essayer d'aller chercher de l'eau un peu plus profond ou pas?
Bien sûr, et les racines, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on équipe à chaque point d'aquaponcture, on a appelé notre solution l'aquaponcture. À chaque fois qu'on installe des points d'aquaponcture sur une parcelle cadastrale, on équipe un arbre, celui qui est dans la position peut-être la moins propice, avec des sondes tensiométriques.
Concrètement, qu'est-ce qu'un point d'aquaponcture?
Alors, concrètement, un point d'aquaponcture, c'est un espace vert qu'on met légèrement en creux, pas beaucoup, 30 cm maximum, pour pas faire un trou d'obus, mais juste une flaque d'eau, en gros. Et on choisit qui est bien localisé pour que l'eau, qui est d'une surface imperméable, arrive bien à cet endroit-là, normalement, naturellement. Et on choisit, parmi toutes les options qui nous sont offertes, celles qui nous permettent de planter des arbres, des arbustes et des plantes de couverture. D'accord. Et c'est important, arbre, arbuste, plante de couverture, parce que ça va donner une complexité racinaire dans le sol qui va améliorer et entretenir la perméabilité du sol. Et donc, chaque fois qu'il va pleuvoir, quand il pleut par exemple 1,5 mm, c'est-à-dire pas beaucoup, le fait de collecter l'eau sur une grosse surface imperméable va transformer une petite pluie qui n'arrose pas vraiment en arrosage massif, parce que c'est facile, hein, si on a 1,5 mm et de pluie qui tombe et que on ramasse par exemple 100 mètres carrés, ça transforme une pluie de 1,5 mm en une pluie de 150 mm. Et donc ça transforme une petite pluie en arrosage massif, et ça donne des conditions d'une installation pérenne de la nature en ville, et d'une nature qui va pouvoir délivrer ses prestations de fraîcheur parce qu'elles ont de l'eau, non pas en superficie, mais à moins 80 cm, à moins 50, à moins 20, et c'est ça qu'on contrôle par des sondes tensiométriques pour être sûr qu'elles aient l'eau bien présente.
Voilà, justement, là, on nous parle justement d'une période de sécheresse qui arrive.
Oui.
C'est ça? Comment on va trouver l'eau?
On prépare pendant la période humide, en concentrant, en créant un nouveau cheminement de l'eau, on va créer des réserves d'eau à moins 80, moins 1 mètre, vers lesquelles les racines vont plonger, pour sevrer les plantes le plus rapidement possible des besoins urgents d'arrosage qui sont plutôt liés à la superficie de la terre. Et donc on donne des chances à la nature de s'installer de façon plus durable parce que on a préparé le sol pendant toute la période où il y avait suffisamment d'eau si vous voulez, il faut pas raisonner en à-coup. Les solutions régénératives, c'est ça. La solution régénérative, c'est qu'on va préparer pendant l'hiver les conditions qui vont nous permettre de supporter l'été.
D'accord. Est-ce qu'il y a des essences d'arbres qui sont plus... est-ce qu'il faut changer des essences d'arbres, justement, avec ce réchauffement climatique?
On est en train de découvrir ce qu'est un arbre. Comment ça fonctionne vraiment? Enfin, c'est quelque chose qui a l'air de hyper high-tech, finalement, un arbre. Et la question qu'on peut se poser, c'est que on l'a lu pas mal dans les journaux, etc. Cette notion de jumeau climatique, on se dit, finalement, quand on voit l'évolution du réchauffement climatique, Lyon, par exemple, va bientôt avoir la température moyenne de Séville ou de Marrakech. Donc, allons voir quelles sont les essences qui poussent à Séville et à Marrakech et commençons à planter ces arbres. Alors, nous, on n'est pas du tout favorable à cette idée-là, parce que ça, c'est de l'adaptation. Hein, ouais. C'est pas de l'adaptabilité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les végétaux résistent mieux à Séville et Marrakech? En général, parce qu'ils ont des petites feuilles, parce qu'ils évapotranspirent peu, ils ont pas beaucoup besoin d'eau, mais en contrepartie, ils ont une petite clim. Mmh. D'accord? Mmh. Et ça, à l'addition d'un urbanisme bioclimatique qui a été conçu comme à Séville ou à Marrakech, par temps chaud, avec des ruelles étroites, etc., mettre des arbres qui sont un peu moins puissants en clim, ça peut marcher, mais mettre dans nos urbanismes de régions tempérées, où on a donné nos villes au soleil des arbres avec des petites climes, c'est pas nécessairement la bonne solution. Donc, et en gros, si on devait schématiser le truc, on peut passer du platane au micocoulier, du micocoulier au chêne vert, du chêne vert à l'olivier, de l'olivier au cactus, et après on fait quoi? Après, on est coincé, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, quand on est régénératif, on va essayer plutôt, et je sais que l'ONF fait des études là-dessus intéressantes, c'est d'utiliser un pouvoir assez extraordinaire des arbres qu'on est en train de découvrir, qui est l'épigénétique, qui permet aux arbres de s'adapter de façon accélérée, et de voir si, en prenant les végétaux qui sont un peu classiques de nos régions tempérées, tilleul, platane, chêne, etc., en les élevant déjà, en leur apprenant à subir des chocs climatiques, des petits pics caniculaires, etc., est-ce que l'arbre va pas déjà s'adapter, porter en lui, cette adaptabilité nécessaire, et donc continuer à planter des arbres plus traditionnels? Nous, on est plutôt de cette veine-là. Et la deuxième chose, c'est que nous, on évite de faire des listes de végétaux qui sont soi-disant adaptés ou pas, parce que les listes, c'est des mauvaises réponses. À chaque végétaux doit dépendre du contexte biologique qui l'accueille, quoi. Et donc nous, on essaye de faire à chaque fois, pour chaque point d'aquaponcture, des palettes végétales spécifiques, et c'est pas nous qui les faisons, c'est les pépiniéristes de la région qui les font, parce que les pépiniéristes sont les gens qui connaissent le mieux les plantes que nous. C'est des gens, ils voient la difficulté qu'ils ont à faire croître les plantes dans la région dans laquelle ils sont installés. Ils voient quand on plante, on arrache des plantes de chez eux, qu'on les met dans les chantiers, il y a une garantie de reprise, ils voient toutes celles qui n'ont pas marché et qui reviennent chez eux, donc ils ont une culture du végétal qui marche et qui ne marche pas, qui est réactualisée un peu par les vicissitudes de leur contrat.
D'accord.
Et donc nous, on s'appuie beaucoup là, sur ces gens-là.
Merci Jean-Marc Bouillon, on va faire une pause fraîcheur.
Merci.
Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Merci.
Pour m'emmener plus haut, embrasse-moi encore, donne des Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur IDFM Radio. Après cette pause fraîcheur, on retrouve Jean-Marc Bouillon, paysagiste, concepteur passionné et qui est en direct de Lyon. Bonjour Jean-Marc Bouillon, rebonjour.
Rebonjour.
Voilà, on parlait donc de qui veut rafraîchir sa ville, cette start-up. Qui a quel âge déjà? Vous avez créé cette
start-up? Elle est récente, on l'a créée 29 décembre 2023, donc en fait on a deux exercices et demi en réalité.
Et vous êtes nombreux dans cette start-up?
On est huit là pour le moment.
Et vous donc avez, j'ai vu un conseil scientifique, c'est ça?
Oui, on est, je disais tout à l'heure qu'on était une société à mission, donc on a un comité de mission et un conseil scientifique. Comité de mission, c'est parce qu'on veut être engagé. Nous, ce qu'on cherche, on pense qu'il n'y a de transition que quand le monde économique, s'en mêle. Et donc, on a besoin de renouer le contact entre écologie et économie. Et nous, on veut le montrer en ayant une société, c'est-à-dire que les questions environnementales peuvent être prises en main par des sociétés, et c'est pas parce que c'est une société qui a un but lucratif, etc., qu'on fait nécessairement mal les choses. Et donc c'est pour ça qu'on est une société à mission, parce qu'on veut s'engager sur des missions claires, etc. Donc on a un comité de mission qui nous permet de vérifier qu'on cherche bien à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et on a un conseil scientifique.
Ouais, c'est quoi son rôle, le conseil scientifique?
Ben, le conseil scientifique, il a quatre rôles. Le premier, c'est d'être les garants de l'impact. C'est-à-dire que nous, comme on fait des petits points d'acupuncture chez chacun, et que notre force vient de l'addition, c'est un peu chacun, beaucoup ensemble, on veut que cette addition de petites interventions soit crédible, solide et robuste. Donc on demande à notre conseil scientifique d'abord de nous aider à choisir quels sont les bons indicateurs qui illustrent bien quelles sont nos compétences, notre travail, etc., qu'il valide la façon de les calculer et valide les résultats. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, comme tout conseil scientifique, c'est de nous empêcher de s'arrêter. C'est en nous piquant sans cesse, en disant on pourrait faire évoluer vers ci, vers ça, etc., etc. Et puis le troisième rôle, c'est d'en parler, hein, c'est de véhiculer la bonne image. Et puis le quatrième rôle, il est un peu étonnant, c'est de dire, en contrepartie de votre aide, etc., vous pouvez prendre toutes les données qu'on produit pour vos propres recherches. Parce que c'est plutôt des scientifiques, des gens qui cherchent, etc. Tout ce qu'on est en train de faire, tous nos points d'acupuncture, tous ces arbres qu'on va planter, tous ces millions de mètres cubes d'eau qu'on va soulever, si ça peut être des éléments de recherche pour vous, tout est en open source pour vous.
Très bien. Dites-moi, on parlait des arbres tout à l'heure et je vois une difficulté quand même sur les... Bon, je pense à Paris, hein, avec tous les réseaux urbains souterrains qui sont compliqués, notamment le métro, les réseaux de d'eau, d'électricité, etc. Comment l'arbre s'adapte de façon racinaire avec tout ça?
Alors, il y a deux choses, c'est une bonne question. Il y a deux choses. D'abord, contrairement à ce qu'on faisait avant, maintenant on plante sur réseau. Il y a des boîtes il y a des protocoles qui permettent de planter sur réseau. Par exemple, la ville de Lyon a écrit tout un guide de comment on plante sur réseau. Donc, c'est moins impossible de planter des arbres quand il y a des réseaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut savoir que les concessionnaires sont invités dans le domaine public. C'est-à-dire qu'ils sont là. De façon invitée, et que si le domaine public a une nouvelle occupation qui est légitime, on peut demander aux concessionnaires de bouger leur réseau parce qu'il y a un nouvel usage public qui est en train d'arriver. C'est la jurisprudence de Bobigny. Elle a été créée dans le cadre du tram, l'arrivée des premiers tramways en France. Et quand il a fallu faire la plateforme, il y avait plein de réseaux et il n'était pas question d'avoir des réseaux qui pouvaient se mettre à fuir sous une plateforme en béton. Donc on a dit aux concessionnaires, messieurs les concessionnaires, vos réseaux, la plateforme arrive. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est fort de cette jurisprudence, on peut dire, messieurs les concessionnaires, bougez vos réseaux, une nouvelle infrastructure arrive, c'est l'infrastructure verte des villes et on a besoin de place pour mettre nos arbres. Cette jurisprudence a été utilisée à Nancy, sur la rue Jeanne d'Arc, et donc pour pouvoir mettre ce réseau d'arbres jugé indispensable à la qualité de vie de la rue Jeanne d'Arc, on a déplacé tous les réseaux et planté les arbres.
Donc Nancy, c'est une de vos réalisations?
Non, c'est pas nous, mais c'est un bon exemple.
D'accord. Vous avez beaucoup de réalisations à votre actif ou pas?
Alors nous, on est dans notre go-to-market, Et c'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui 7 réalisations, 7 points d'acupuncture, 5 dans la région lyonnaise, 1 à Dijon, 1 à Angoulême. Mais on est en train de se développer dans 15 villes en France. Et on a, je sais pas, 70 points d'acupuncture en étude à peu près. On a pour ambition d'en faire 150 cette année, 500 l'année prochaine et 1000 par an dans 3 ans.
Donc vous travaillez avec tout un réseau de paysagistes en France, c'est ça?
Oui, c'est ça. Nous, on est dans l'alliance des multiples, et dans l'alliance des multiples, c'est aussi l'alliance des multiples compétences. Et nous, on est un agrégateur de compétences, c'est-à-dire qu'on a avec nous ce qu'on appelle des opérateurs territoriaux, qui sont des entreprises du paysage très ancrées dans leur territoire, très engagées dans leur territoire. Et c'est avec eux qu'on va développer nos techniques d'aquaponcture dans les régions. Et y compris aussi avec les producteurs de végétaux des régions, parce que nous, on veut aménager le territoire par le territoire. Donc, il y a une notion de proximité.
Vous m'aviez dit l'autre jour, en préparant cette émission, que vous avez levé des fonds donc pour votre start-up.
Oui, on a levé 1 million, on a assez
1 million.
Ouais, 1 million d'euros avec nos petits bras, j'ai envie de dire. Parce que, et toujours dans cette même logique, dans cette logique d'alliance des multiples, on a créé une société de participation et on a proposé à notre entourage, hein, family and friends, d'être les premiers souscripteurs, donc la société civile, et on a proposé aux gens de prendre 1000 euros, 2000 euros ou 10 000 euros de souscription. C'était un arbre, un bosquet, une forêt. Et les gens, et on a réuni 250 000 euros comme ça et 60 personnes de la société civile. Ensuite, nous on s'intéresse au foncier privé des villes. Donc ce foncier privé des villes, il est détenu par ceux qui y habitent, mais par ceux qui y travaillent. Donc on est allé voir le monde économique et on dit venez nous rejoindre, soutenez-nous, etc. Et là on a réuni 35 entreprises qui ont mis 10 000, 20 000 ou 50 000 euros. Ce qui nous a permis de réunir 400 et quelques mille euros. Ensuite, on s'est dit, on va se déployer dans les territoires en essayant de convaincre le monde de l'entreprise des paysages de venir, réaliser les points d'acupuncture dans leur territoire. Et on leur a dit, venez nous rejoindre et puis venez nous soutenir en prenant 20 000 euros dans nos sociétés de participation. On en a réuni 15, ça fait 300 000. Et avec ça, on a levé 1 million, ce qui était notre ambition.
Alors concrètement, Jean-Marc Bouillon, cette solution végétale et cette adaptabilité grâce à votre solution végétale, elle nous fait gagner combien de degrés en moins?
Alors, c'est un peu dur à dire de façon collective, parce qu'on n'a pas encore assez de données, même le monde scientifique, qu'est-ce que donnerait l'accumulation de tous ces points d'aquaponcture qu'on pourrait faire. C'est-à-dire un sujet qui a été relevé par notre premier conseil scientifique, c'est Michel Luceau, qui est un géographe, qui nous disait que à Lyon, il y a un laboratoire qui étudie ce genre de choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a des températures ressenties qui peuvent être de 6 à 10 degrés inférieures quand on est à l'ombre d'un arbre qui évapotranspire.
Combien de degrés?
De 6 à 10 degrés.
De 6 à 10 degrés sous un arbre.
De température ressentie sous un arbre qui évapotranspire. Avec cette notion de fraîcheur qui est indispensable.
Ouais, c'est énorme.
De toute façon, on le sait bien. Tous ceux qui pratiquent la ville à vélo, par exemple, on le sait bien quand on a la chance de parcourir une piste cyclable à l'ombre des arbres, et surtout quand on est près de l'eau, on a de temps en temps un petit frisson parce qu'on sent la fraîcheur.
Ouais. Très bien. Écoutez, on a été ravis de vous entendre. Et puis, merci encore d'avoir accepté notre invitation sur IDFM Radio. Donc, Jean-Marc Bouillon, vous êtes paysagiste, vous êtes un concepteur passionné. C'est vrai. Et donc, vous avez créé une méthode innovante pour rafraîchir nos villes. Alors, on peut vous retrouver, il y a un site,
Oui, bien sûr, qui veut rafraîchir sa ville. Il y a un site internet, on est très disponible. Ceux qui s'intéressent, contactez-nous. On essaie de le faire en commençant par le foncier privé des villes, parce que on considère que les pouvoirs publics font déjà pas mal de choses pour adapter leurs villes, mais sur le domaine public. Et nous, on essaie de convaincre le foncier privé des villes et notamment les acteurs économiques qui possèdent des fonciers, en leur disant, montrez l'exemple, embarquez-vous dans cette histoire, vous verrez, c'est pas grand-chose, c'est un point d'aquaponcture. On intervient au bon endroit, mais un tout petit peu comme l'acupuncture, on pique au bon endroit et c'est tout le bras ou le muscle qui s'en porte mieux. Ben là, on pique au bon endroit et c'est toute la parcelle qui s'en porte mieux.
Merci beaucoup. Donc, on peut vous retrouver sur Qui veut rafraîchir sa ville.
Merci à
Francky qui réalisait cette émission avec moi et à très bientôt. On se retrouve sur IDFM Radio pour une nouvelle émission. Au revoir.